Bonjour à tous et bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission du commentaire de la paracha de la semaine par Avraham Harold Weil, le grand rabbin de Strasbourg et de Barin. Bonjour, monsieur le grand rabbin.
Bonjour, Jean.
Cette semaine, nous lirons la paracha de Pekoudé, dernière paracha du deuxième livre de la Torah. L'allumage des bougies pour ce Shabbat, ce sera à 18h20 et la fin du Shabbat demain à 19h19. Les horaires sont évidemment valables uniquement pour Strasbourg et sa région. Vous voulez, comme chaque semaine, souhaiter un refouach chez les mains à tous nos malades. Et évidemment, un Shabbat Shalom à nos aînés et aux personnes isolées. Et en même temps, un joyeux anniversaire aux gens qui sont nés un 15 mars. Voilà, monsieur grand rabbin.
Alors, je suis obligé de vous interrompre, Jean, pour vous souhaiter un très très bon anniversaire.
Merci beaucoup.
C'est voilà, pour moi l'occasion de vous remercier pour toutes ces années passées ensemble, en espérant que les prochaines... Alors, on va pas dévoiler à nos auditeurs, par pudeur, votre âge, Jean, mais je peux leur donner quand même un petit indice, c'est que vous n'êtes pas encore arrivé au milieu de votre vie, donc il nous reste encore quelques belles années à passer ensemble pour arriver jusqu'à 120 ans.
Amen, amen.
Voilà, en bonne santé
et
avec toujours beaucoup de questions.
Voilà, et on souhaite évidemment un bon anniversaire aux gens qui l'ont eu avant, qui l'ont aujourd'hui et qui l'ont demain. Comme ça, ça fera plaisir à tout le monde. Avant de parler de la paracha, on va parler d'abord d'une activité qui aura lieu, je crois, dimanche, oui, à partir de 20h à 22h, avec le Rav Zmerla, Dayan de la ville et vous-même. Un petit mot sur cette activité spéciale pour Purim.
Alors, il s'agit d'une activité qui a été intitulée Masterclass. Je ne suis pas du tout à l'origine de ce titre, que je ne trouve pas forcément pompeux, mais en tout cas qui est très ambitieux. L'objectif, en réalité, de cette soirée de préparation à Purim, et je pense que ça se répétera pour les prochaines fêtes, c'est une initiative du rabbin Gatzebag qui souhaitait donner la possibilité à un public le plus large possible de pouvoir se préparer aux différentes fêtes, à la fois sur le plan halakhique, avec, on va dire, quelques indications halakhiques très concrètes et très, très précises sur les modalités de la fête, mais également une idée, une approche plus au niveau de la pensée juive de la fête. Et il y aura donc un troisième intervenant, je pense à un bon format, en la personne du rabbin Rebibo, qui lui étudiera avec nous une partie du texte de la Megillah, donc une étude peut-être un petit peu plus technique sur texte. Et donc vraiment, je l'ai dit, très ambitieux, le fait de donner la possibilité à tous nos fidèles, en 2 heures, de pouvoir essayer de balayer le plus largement possible, à la fois sur le plan de la pensée juive et sur le plan de la halakha, la fête de Purim. Je vous l'ai dit, on essaiera de reproduire ce modèle, ce schéma pour la fête de Pessah et pour les fêtes suivantes.
Alors, avant la masterclass de dimanche, on va quand même poser des questions, parce que cette année, c'est très particulier. Donc, on répète, c'est jeudi qu'on jeûnera pour le Tan Tester. C'est un jeûne qui a été avancé, parce que sinon on serait tombé Shabbat, et là,
exactement,
on ne peut pas jeûner Shabbat. Alors, c'est ça l'explication.
Alors tout à fait, c'est une année particulière. Nous avons ce qu'on appelle un Ta'anit Mugdam. Nous savons parfaitement que cette configuration d'un jeûne avancé est une configuration à laquelle nous sommes exposés très régulièrement, pas forcément pour le jeûne de Pourri, mais pour d'autres jeûnes dans l'année. Ça arrive notamment régulièrement en ce qui concerne les jeûnes du 17 Tammuz et du 9 Av, parce que je rappelle que le 17 Tammuz et le 9 Av tombent toujours le même jour. Hein. Si le 17 Tammuz est un dimanche, le 9 Av tombe aussi un dimanche. Ils sont séparés exactement de 3 semaines. Et donc, c'est pas par hasard que je vous ai parlé du dimanche, parce que lorsque ces deux jeûnes-là tombent le dimanche, eh bien, nous devons... il tombe le samedi, excusez-moi, nous devons donc retarder ces jeunes-là, au dimanche. Donc, ce que je voulais dire, excusez-moi, je suis parti un petit peu dans tous les sens, c'est que le fait de déplacer un jeune est quelque chose d'assez habituel chez nous.
Donc,
soit on les repousse, soit on l'avance. Là, il n'est pas question de repousser le jeûne d'Esther, tout simplement parce qu'on ne va pas jeûner et célébrer la fête de Pourim en même temps. Or, le jeûne d'Esther a été introduit par nos sages la veille de la fête de Pourim. Il n'y aurait plus aucun sens à jeûner après Pourim. Donc, à partir du moment moment où le jeûne d'Esther ne peut pas se vivre et se réaliser la veille de Pourim, eh bien, nous l'avançons. On ne l'avance pas au vendredi. Spontanément, Jean, vous auriez pu me dire, mais dans ce cas-là, si ça tombe samedi, ben, on va l'avancer le jour d'avant, le vendredi. Non.
Il y a un jeûne, c'est le
jeûne du dit Tevet. Le jeûne du dit Tevet est le seul jeûne qui, techniquement, parce que c'est une question aussi de calendrier, qui, techniquement, peut tomber le vendredi. Je rappelle, d'ailleurs, à ce sujet, il est très intéressant, ce jeûne du dit Tevet, que c'est un jeûne qui pourrait nous sembler peu important dans notre tradition juive. Or, le Abou d'Aram, lui, fait remarquer que si techniquement ce jeûne du dit Tevet tombait un samedi, ce n'est pas possible d'un point de vue technique, mais si ce jeûne tombait un samedi, eh bien, nous jeûnerions un samedi pour le dit Tevet, comme nous le faisons à Kippour. Hein, le Shabbat ne repousse pas le jeûne de Kippour. Eh bien, si c'était le cas pour le jeûne du dit Tevet, eh bien, nous devrions aussi jeûner le samedi. Pourquoi ? Parce que le dit Tevet marque le début de toute la période triste qui va conduire à la destruction du temple. Hein, c'est le début du siège. Le début du siège, c'est le début des problèmes, finalement. Et donc, c'est un moment crucial, déterminant, qui aurait impliqué la nécessité de jeûner le jour du Shabbat. On ne jeûne pas vendredi, j'en reviens au jeûne d'Esther. Pourquoi est-ce qu'on ne jeûne pas le vendredi ? Parce que jeûner le vendredi nous aurait amené à rentrer dans Shabbat en jeûnant. Or, ça, on ne le fait que lorsque on est dans la bonne date. Le dit Tevet, lorsque ça tombe un vendredi, c'est la véritable date, donc là, c'est autorisé. Là, on a déplacé le jeûne, donc on ne va pas créer un nouveau problème, vous l'avez compris, Jean.
Alors, si on jeûne jeudi, ça veut dire que on ne fait pas la Megillah.
Alors, ça veut dire effectivement qu'on ne fait pas la Megillah le soir. Parce que, parce que Pourim reste toujours à la même date.
Donc
il n'est pas question de déplacer Pourim. Nous ne faisons que déplacer le jeûne. Et permettez-moi, Jean, de prendre quelques instants pour rappeler que ce jeûne d'Esther, finalement, on se sent peut-être un petit peu moins coupable de le déplacer et de l'avancer, dans le sens où, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent imaginer, ce jeûne-là commémore un événement qui n'a pas eu lieu la veille de Pourim, historiquement. Pourquoi ? Alors ce jeûne, on l'appelle Ta'anit Esther, on l'appelle le jeûne d'Esther, et donc lorsqu'on parle de jeûne d'Esther, nous, spontanément, on pense à ce jeûne qui a été initié par Esther dans l'histoire de la Megillat Esther, au moment où Esther est informée du funeste décret d'Aman, de cette solution finale qui visait à exterminer l'ensemble du peuple d'Israël, hein, hommes, femmes, enfants. Et lorsqu'Esther apprend ce décret, elle décide de rassembler le peuple et d'instaurer un jeûne de 3 jours. Or, à quelle époque nous situons-nous, Jean, au moment où Esther va instaurer ce jeûne ? C'est marqué explicitement dans la Megillah. Les gens vont se dire, on est forcément on est au mois d'Adar.
Oui.
Il n'y a pas du tout, on n'est pas au mois d'Adar. Si vous regardez ce que nous dit la Megillah, on est au mois de Nissan. On est au mois de Nissan, c'est au mois de Nissan que le tirage au sort a été effectué par Aman, et donc il était prévu que 11 mois plus tard, le peuple juif soit exterminé. Et donc nous venons en réalité nous commémorer, au travers de ce jeûne d'Esther. En tout cas, c'est une des explications. Il y a plusieurs explications sur le jeûne d'Esther. Ce n'est pas forcément la commémoration du jeûne qui avait été initié par Esther, mais c'est en tout cas l'explication la plus répandue. Nous commémorons un jeûne qui n'a pas eu lieu en Hadar, qui a eu lieu en Nissan, mais que pour des raisons pratiques, pour ne pas séparer Pourim du jeûne d'Esther d'un mois et pour lier ces événements qui sont, on l'a dit, intimement liés, eh bien, nos sages ont décidé d'instaurer la veille de Pourim. Et donc, on n'a pas de scrupules, j'ai envie de dire, à l'avancer, dans le sens où, de toute façon, la date du 13 Adar n'est pas une date qui correspond à l'événement historique.
Ça veut dire que, finalement, les gens qui ne le feraient pas seraient moins coupables.
Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est un jeûne qui reste important. En revanche, Jean, vous m'ouvrez une porte ici dans laquelle j'aimerais m'engouffrer, dans le sens où ce jeûne-là, finalement, même d'après l'explication que je viens de donner, on a des explications un peu plus joyeuses, hein, parce que ce jeûne, d'après la première explication que je viens de donner, rappelle quand même un événement qui a été un événement
tragique,
en tout cas un événement particulièrement solennel. Hein, ce jeûne-là, à un moment de l'histoire où le peuple ne savait pas du tout finalement à quelle sauce il allait être mangé, et au moment où il a jeûné, c'était un moment à ce moment-là de prière et un moment vraiment où le peuple s'en remettait à Dieu, même si ça s'est bien terminé. Donc on célèbre un moment, on va dire, très très solennel de l'histoire. Il y a d'autres explications, j'ai dit, beaucoup plus joyeuses. Il y a d'autres explications qui nous disent qu'en réalité, pas du tout. Ce jeûne est le jeûne qui a été initié par le peuple au moment où il est parti mener la guerre contre les Perses, où il avait déjà le vent en poupe. Donc c'est plutôt là un jeûne qui rappelle un événement joyeux dans l'histoire. Et donc, on est dans quelque chose de totalement différent des autres jeûnes et de l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons dans les autres jeûnes qui sont institués durant l'année. Alors Kippour, c'est particulier. Kippour, c'est un jeûne qui est là pour tout simplement nous permettre d'être dans l'état d'esprit de la journée de Kippour, d'axer un peu plus, on va dire, notre service sur la dimension spirituelle, notre service de Dieu. Mais je vous rappelle, Jean, que tous les autres jeûnes, que ce soit celui de Guédalia, celui du 10 Tevet que nous venons de rappeler, ou les jeûnes du 17 Tammuz et du 9 Av, cela rappelle des événements particulièrement tristes. Et donc c'est dans cela que, même si ce jeûne d'Esther ne pourrait pas être qualifié d'un jeûne moins important, c'est un terme que je n'apprécie pas beaucoup, parce qu'on pourrait donner l'impression finalement qu'on n'est pas obligé de jeûner durant le jeûne d'Esther. En tout cas, c'est un jeûne assurément qui est de nature totalement différente des autres jeûnes de l'année. Et donc, il y aura, vous avez raison, Jean, je vous le concède quand même, il y aura certaines adaptations, et a fortiori cette année où le jeûne est avancé, donc il n'est pas...
Le jour même.
Voilà, il n'a pas lieu à la date habituelle. Eh bien, il y aura certaines souplesses, on va dire, qui n'existent pas pour d'autres jeûnes.
Alors, on résume. Donc,
je vais donner la phrase classique, magique. Pour des cas particuliers, téléphonez à votre rabbin, envoyez-lui un message et il vous expliquera est-ce que vous rentrez dans la catégorie des personnes qui peuvent être dispensées. Et je rassure tout le monde, toutes les personnes qui sont en bonne santé et qui n'ont pas de soucis particuliers, vous avez l'obligation de jeûner, d'accord, y compris cette année, et ça vous apportera une joie et bracha. Et c'est un jeûne très facile entre vous et moi. Vous pouvez vous lever très tôt le matin avant le début du jeûne pour manger, si vous en avez formulé la condition la veille, il se termine pas très très tard, donc ça va. Et puis on n'a pas des températures caniculaires, donc
c'est vrai. Alors on va revenir sur le début. Donc la Megillah, ce sera pas jeudi soir, mais samedi.
La Megillah sera samedi soir.
Voilà.
C'est pas mal du tout, je peux vous assurer que pour le lecteur de Megillah que je suis, et je pense à tous les autres lecteurs de Megillah, je peux vous assurer que lire la Megillah le ventre plein, donc contrairement aux autres années où on est à jeun lorsqu'on lit la Megillah, et donc on peut être tenté d'aller un petit peu plus vite pour pouvoir casser le jeûne. Là, je peux vous assurer que samedi soir, voilà, on sera dans de bonnes conditions pour lire la Megillah.
Alors, deuxième question corollaire. On a l'habitude, en général, de donner Machatzit HaShekel et Matanat Tlajanim la veille de Pourim. Est-ce que là, c'est la veille ou est-ce que là, c'est avant?
Alors, Matanat Tlajanim, non. Matanat Tlajanim se donne le jour de Pourim. On peut, en revanche, déjà le donner. Matanat Tlajanim, c'est ce fameux don aux pauvres, don à au moins deux pauvres.
On peut le donner avant?
Alors, on peut le donner avant, mais pour qu'il soit remis le jour même, en réalité.
Oui,
on peut même le donner en réalité bien avant,
d'accord,
mais à condition qu'il soit donné, qu'il soit remis,
d'accord,
le jour même. En revanche, ce que vous évoquez, c'est une mitzvah qui est effectivement un minag et qui a lieu, en principe, à l'office de Mincha du jour du Ta'anit Esther. C'est le Machatzit HaShekel, c'est-à-dire ce demi-cycle que nous venons d'ailleurs d'évoquer dans les dernières sidrotes et dans la paracha de la semaine dernière, notamment dans le Maftir de la semaine dernière. Et donc c'est ce minhag, cette tradition que nous avons de donner un demi-cycle. Alors, on a plusieurs minhagim qui sont repris dans les halachot que nous avons concocté dans le Shabbat Shalom de cette semaine, que vous retrouverez aussi dans le Shabbat Shalom de la semaine prochaine. Les deux principaux, on va dire, minhagim et les deux principales traditions sont ou bien de donner 3 fois 50 cents, puisque c'est 3 fois...
50 dollars, 50 euros.
3 fois, exactement, pas 50 euros, 50 cents, 50 un demi-euro.
Voilà, d'accord.
Un demi-euro, on n'a pas de shekel ici, la monnaie en vigueur... en France et en Europe, c'est l'euro. Dans l'Union européenne, donc, on donne un demi-euro, à savoir 50 cents, 3 pièces donc, d'un demi-euro. Et pour beaucoup, on donne également cette somme pour chacun. Donc, c'est une somme identique de 3 fois 50 cents pour sa femme et pour ses enfants, pour
mais
chacun de ses enfants.
On est obligé de donner obligatoirement 3 fois 50 cents, ou si je donne 1,50 €... C'est bon.
Très bonne question. C'est vrai, c'est une très bonne question. Est-ce que donner une pièce d'un euro et une pièce de 50 centimes, je suis acquitté? Oui, vous êtes acquitté de la mitzvah, effectivement. Mais il y a, dans la mesure du possible, je pense, ce qu'on pourrait appeler un hidur mitzvah, à pouvoir donner véritablement des pièces de 50 centimes, comme c'était le cas, tout simplement, à l'époque du Beit Hamikdash, où on récoltait chaque année cet argent pour alimenter les caisses, comme nous l'avions rappelé, qui permettaient d'acheter tout simplement les sacrifices pour toute l'année. Donc c'est ce qu'on continue à... On continue à tout simplement à maintenir ce Inag. Cet argent, bien sûr, vous l'avez compris, Jean, ne servira pas à acheter des sacrifices, hein, puisqu'on n'a plus de temple. Donc cet argent, en principe, et c'est aujourd'hui comme ça que la Ha nous flèche cet argent, il sera également destiné à des caisses de charité ou à des besoins communautaires. Donc, ou bien, je l'ai dit, 3 fois 50 centimes, ou bien, et c'est, on va dire, le minhag plus répandu dans les communautés sfarades, c'est de ne pas donner une demi-pièce en vigueur de la monnaie en cours dans le pays dans lequel nous habitons, mais la valeur en grammage d'argent d'un demi-shekel de l'époque. Et donc, pour être là aussi encore une fois très concret, je voulais marquer, on est aux alentours aujourd'hui avec le cours de l'argent. Je suis désolé, on a un cours élevé. Faut revenir les années suivantes avec l'espoir que, pour ceux qui veulent dépenser un peu moins, que ce cours diminue, on est à 7 euros. À
donc,
peu près.
3 fois 7 euros ?
Alors, non, 7 euros, on pourra se contenter de donner 7 euros.
Ah. Pas
uniquement, voilà, certains d'accord. vont donner 7 euros par personne aussi, c'est-à-dire pour chaque membre voilà. de la famille. Voilà.
Alors, on doit donner pour tout le monde, c'est-à-dire vous, votre femme, vos
exactement,
enfants.
Exactement, les enfants, exactement, l'habitude.
Même
des...
si
tout à fait, même si eux-mêmes,
ou...
ouais, tout à fait, parce que d'autant plus qu'ils étaient, vous avez raison, c'est une bonne question, parce que nous avions vu la semaine dernière qu'ils étaient dispensés de la mitzvah, ouais. cette mitzvah ne concernait que les hommes au-dessus de 20 ans, et bien malgré tout, le minhag aujourd'hui, la tradition, est de donner cette somme également pour sa femme et ses enfants, bien qu'officiellement, on va dire, et si nous étions encore à l'époque du Beit HaMikdash, bien ils seraient dispensés eux-mêmes d'apporter cette somme. En terminer avec ce sujet, puisque le jeûne est avancé, on aurait pu imaginer que cette mitzvah soit accomplie un peu plus tard, notamment par exemple la veille de Pourim, Motzei Shabbat, samedi soir. C'est tout à fait possible pour ceux qui ne l'auraient pas fait le jour du jeûne d'Esther, mais d'après la grande majorité des décisionnaires, des poskim, même lorsque le jeûne d'Esther est avancé, nous avons l'habitude de continuer à donner ce machatzit shekel dans la mesure du possible à mincha de l'office du Tani Tesser, du jeûne d'Esther, c'est-à-dire jeudi après-midi. Ouais. Référez-vous donc aux horaires de votre synagogue pour connaître les horaires de mincha et apporter le machatzit shekel à ce moment-là. Mais je le dis et je le répète solennellement à ce micro, les personnes qui n'auraient pas eu la possibilité de donner le machatzit shekel à ce moment-là, il n'y a aucune panique, aucun problème, vous pouvez le donner encore samedi soir, vous pouvez le donner pendant la journée de Pourim, mais vous pouvez même, pour ceux qui ne l'auraient pas fait à Pourim, continuer à le donner par la suite. Je rappelle qu'à l'époque du Beit HaMikdash...
Le lendemain, c'est-à-dire lundi, je pourrais
tout
donner.
À fait, je rappelle qu'à l'époque du Beit HaMikdash, on annonçait l'obligation d'apporter ce machatzit shekel un mois avant le mois de Nissan, c'est-à-dire le premier Adar, mais qu'on récoltait cet argent durant tout le mois d'Adar. Donc jusqu'à la fin du mois d'Adar, à la Pourim, on est pile au milieu du mois d'Adar, on est le 14 Adar, et donc les jours suivants, on est encore parfaitement, j'ai envie de dire, dans le timing, et même si donc, le minhag est de le faire le jour du jeûne d'Esther, si quelqu'un n'a pas pu le faire pour une raison ou une autre, il a toujours la possibilité de se rattraper.
On est très en retard, on va essayer de faire
non,
ça.
Non, on n'est jamais en retard, Jean, de toute façon.
Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide résumé de la
ça va être très court.
Rapide.
Ça va être très court. On a l'habitude, c'est vrai, de résumer Vayakhel et Pekoudé ensemble. On est encore dans une configuration particulière cette année avec ce mois supplémentaire, une année embolismique qui, du coup, eh bien, nous a fait couper un petit peu la poire en deux ici. La paracha de Pekoudé est séparée de la paracha de Vayakhel, à laquelle elle est normalement habituellement couplée. Et la paracha de Pekoudé, eh bien, est finalement la continuité de cette paracha de Vayakhel. Nous en terminons cette fois-ci définitivement avec le sujet du Mishkan, qui a occupé une très très longue partie, comme nous l'avions rappelé, de notre Chumash, puisque 5 sidrot ont été consacrés au Mishkan. La paracha de Pekoudé commence par le décompte et l'inventaire détaillé de tous les matériaux qui ont été apportés pour la fabrication du Mishkan, la construction du Mishkan. Nous verrons ensuite la réalisation des vêtements. On avait parlé de l'ordre qui avait été donné pour réaliser la confection des vêtements. Et dans la paracha, on va nous parler de la confection effective, cette fois-ci, des différents vêtements du Kohen. Et la fin de notre paracha, ça c'est peut-être un passage un peu plus original où là on va plus être dans des répétitions, dans quelque chose d'un peu nouveau, eh bien on va nous parler de l'ordre qui est donné d'ériger enfin ce Mikdash, ce Mishkan, pardon, donc ce tabernacle. C'est le premier, mais qui est un Mikdash, il n'y a pas de lapsus dans ce que je viens de dire, c'est le premier jour du mois de Nissan que ce Mishkan va être érigé par Moshe Rabbeinu, et donc nous terminerons
si on a le temps on
cette
on paracha parce que oui.
À part cette nuée qui va apparaître et barrer en quelque sorte la route à Moshe Rabbeinu, c'est assez intriguant. Mais en tout cas, C'est sur cet épisode que nous allons assurer la transition avec le troisième livre de la Torah, Vaïkra. Donc c'est un Shabbat qu'on appelle Shabbat Chazak, Jean, puisque lorsque nous terminerons la lecture de Pekoudé, nous dirons Chazak, Chazak, Venit Chazak. Et chez les Ashkenazim, on a même la tradition de se lever pour le dernier verset.
Ce qui est très intriguant aussi, c'est le premier verset de cette paracha, où il y a une répétition du mot Mishkan. On sait que dans la Torah, quand c'est écrit deux fois, ça veut dire évidemment que c'est très important, mais là, pour quelle est la raison ?
Vous avez raison. C'est même une bizarrerie ici de langage, hein, puisqu'on veut nous parler ici des comptes qui ont été réalisés, et donc il aurait été beaucoup plus juste grammaticalement de nous dire « Elé fekoudé à Mishkan » Elé fekoudé Mishkan Haedout, tout simplement, sans répéter deux fois le mot Mishkan, voici les comptes du tabernacle, du témoignage. Or, vous venez de le dire, Jean, ce n'est pas ce que le pasouk fait, le pasouk répète deux fois le mot Mishkan, Elé fekoudé ha-Mishkan, et il répète Mishkan Haedout. Alors, beaucoup d'explications, des explications que moi j'apprécie particulièrement, un peu ésotériques, notamment rapportées par Rabbeinu Bechaye, c'est le fait que cela fait allusion ici à deux types de Mishkan, le tabernacle qui a été construit, qui a été érigé sur terre, mais également le tabernacle céleste, puisque ce tabernacle qui a été confié hein, au Bnei Israël et qui est le projet d'une vie, on l'a dit, un projet extrêmement important dans l'histoire du peuple juif.
À Mishkan en même temps, en haut et en bas.
Tout à fait. Donc ne serait en réalité ce tabernacle-là terrestre que la projection d'un tabernacle céleste qui lui en réalité vient lui insuffler en permanence toute son énergie. Donc il y aurait véritablement une symétrie, bien sûr invisible pour l'homme. Il faut imaginer cette projection entre ce tabernacle terrestre, comme ça a été le cas d'ailleurs plus tard, lorsque le tabernacle a laissé place au temple, avec de la même manière qu'il y avait un Beth Amikdash, un temple terrestre, eh bien un temple céleste. Donc c'est une première manière de comprendre ici l'allusion qui est faite par le verset, avec les deux Mishkan, il y en a un qui est...
Oui, c'est-à-dire c'est la même chose, c'est là où Dieu réside.
Tout à fait, c'est une relation, un véritable miroir, et cela exacerbe sans doute l'idée justement que ce Mishkan terrestre que nous construisons eh bien, est une prolongation finalement de ce tabernacle céleste et a pour objectif de donner véritablement la possibilité justement à Dieu de résider parmi nous, de s'installer. Et on en revient à l'idée toujours la même, beaucoup plus générale, que finalement, eh bien, c'est le projet d'une vie. Finalement, un homme est là pour pouvoir un petit peu élever toute la matérialité qui l'entoure et pouvoir avoir un projet spirituel dans un monde matériel. C'est justement toute la difficulté et toute la subtilité de ce que l'on attend d'un homme dans sa vie, c'est sa capacité finalement à mettre en œuvre ce projet. Une deuxième idée, dans le mot Mishkan, on a le mot Mashkon. Mashkon, c'est un gage, et cela vient nous rappeler une idée un peu plus triste, hein, mais comme quoi voilà, l'histoire même est déjà inscrite dans le texte, le fait qu'il y ait marqué deux fois Mishkan, malheureusement, eh bien, deux temples seront amenés à disparaître, seront construits, seront amenés à être disparaître, finalement récupérés en gage par Dieu, par Akadosh Baruch Hu, mais c'est aussi finalement une idée très positive. C'est-à-dire que derrière cette idée qui est une idée assez triste et qui annonce déjà certains malheurs dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a cette idée de gage. Or, dans un gage, eh bien, il ne disparaît pas finalement, il est rendu en temps voulu, et ça, c'est une idée extrêmement positif, pleine d'espoir. Finalement, ce Beth Amikdash, il est déjà là. En réalité, le troisième, il demande qu'à descendre, hein, que Akadosh Baruch Hu le garde auprès de lui, engage, et il est prêt à nous le restituer en temps voulu.
Amen.
Et il y a un côté en tout cas très rassurant et à la fois qui doit vraiment nous remplir d'espoir.
Alors, on n'a pas vraiment le temps. J'avais plein de questions à poser, mais on n'aura pas le temps. Donc, j'ai posé une des questions que je vous ai posées la semaine dernière, mais je n'ai pas eu une bonne réponse, donc je vous le repose. On le voit dans quand on construit les Mishkan, on dit que ça a l'air très facile, tout s'imbrique, tout se met facilement ensemble, alors que c'est finalement très compliqué. Les commentateurs disent effectivement qu'il y a une intervention divine, il y a un miracle. On a l'impression finalement que ce Mishkan a été plus construit par Dieu que par les hommes. Il a donné à Bezalel, à Le Havre, les corottes qu'il faut pour faire ce Mishkan, en fait, il a tout fait tout seul.
Alors, je m'inscris un petit peu en porte-à-faux par rapport à ce que vous dites. Tout simplement parce que si, effectivement, il est vrai, et nous l'avons vu dans le texte, que certains objets, la confection de certains objets a posé de sérieux problèmes, a été un véritable casse-tête chinois. On pense à la menorah, notamment, sur laquelle il y a de très beaux midrashim, et qui nous raconte quelle a été la difficulté pour Moshe de construire cette menorah, qui était en or pur. On le sait, l'or pur, c'est un métal mou, c'est très compliqué de faire une menorah d'une seule pièce en or et de réussir à la faire tenir.
Et
donc,
menorah,
là
c'est
aussi,
ce qu'on voit.
La menorah, c'est le chandelier, bien sûr, le candélabre à cette branche. Et donc, il y a eu un certain nombre de difficultés concernant la construction de certains objets. D'autres ont eu l'air de poser beaucoup moins de difficultés. Hein. Finalement, le modèle et le mode d'emploi est assez clair. Il a été de manière assez détaillée. Il a fallu, et bien sûr, je pense notamment à la manière dont étaient tissées les tentures, avec cette manière tout à fait là aussi miraculeuse et extraordinaire, et qui était un art qu'on ne maîtrise plus aujourd'hui, qui paraît défier finalement l'entendement, de pouvoir tisser quelque chose qui se voit finalement des deux côtés, exactement de la même manière. Donc Bezalel et Aholiab, qui ont été bien sûr à la tête finalement de tous ces travaux, on le sait, étaient dotés d'une intelligence particulière, et que c'est cette sagesse particulière et cette intelligence profonde, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan de l'artisanat, qui leur ont permis de réaliser ce Mishkan. Pour autant, pourquoi je m'inscris en porte-à-faux? Et nous le voyons dans cette paracha, comme nous l'avons vu dans la paracha de la semaine dernière, il y a une participation collective de l'ensemble du peuple, pas simplement par l'apport des matériaux.
Mais si Dieu n'était pas là, on n'aurait pas pu
faire. Évidemment, Jean, bien évidemment,
mais
c'est un projet collectif, au contraire.
De façon importante.
Au contraire, si je m'inscris en porte-à-faux, c'est pour dire que si Dieu a tellement parlé de cette mitzvah du Mishkan, si on a fait tellement de répétitions dans Vayekel et dans Pekoudé, c'est parce que Dieu, après s'être adressé à Moshe pour lui donner l'ordre de construire ce Mishkan et lui en donner tous les détails, a tenu à ce que Moshe puisse s'adresser à son tour à l'ensemble du peuple pour qu'il se sente aussi concerné directement par ce projet, pour qu'il se sente impliqué dans ce projet. Et c'est ce qui se passe, mais bien évidemment que Dieu également intervient. Et le fait que Dieu intervienne, ce n'est pas enlever du mérite à l'homme, ce n'est pas écraser l'homme en lui donnant l'impression que finalement tout seul il n'arrive à rien, même s'il y a aussi un petit peu de cette idée finalement. L'objectif aussi pour un homme, c'est toujours de se rappeler que finalement, eh bien, sans l'intervention de Dieu et sans la volonté de Dieu, rien ne peut se produire, mais c'est la volonté ici d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, de lui-même s'impliquer dans ce projet commun avec le peuple d'Israël. Je rappelle que pour une grande majorité de commentateurs, ce commandement donc consistant en la construction du Mishkan, du tabernacle, est donné après la faute du veau d'or. Il est donc une réparation
année,
finalement
crois,
de la faute du veau d'or. Et en cela, eh bien, on vient totalement s'inscrire dans ce projet qui est un projet de réconciliation. Dans une réconciliation, vous ne pouvez pas avoir simplement une des deux parties. Il faut que tout le monde soit présent. Il faut que tout le monde soit de la fête. Et donc, pour Dieu, le fait de participer, j'ai envie de dire aussi un petit peu à cette construction du Mishkan, mais dans un deuxième temps, on laisse d'abord le peuple d'Israël spontanément venir pouvoir tout simplement donner libre cours à sa générosité de cœur et à sa générosité d'esprit, et Dieu vient s'associer tout naturellement finalement à cette fête. Ça aurait presque été, j'ai envie de vous dire, même indécent qu'il soit absent. Non, il est là. C'est aussi une manière pour lui de montrer qu'il a accepté cette construction, qu'il accepte ce projet, que c'est avec un plaisir immense et non dissimulé, Kaviachol, si on peut s'exprimer de cette manière, eh bien qu'il va venir résider à l'intérieur de ce Mishkan.
Voilà, on rappelle le dimanche 17 mars à la salle Bloom, de 20h à 22h, la masterclass sur les Hagim et sur Pourim. Vous signalez qu'à la radio aussi, on va fêter Pourim. D'abord, mercredi, on aura le plaisir d'avoir avec nous une personne qui va nous parler d'une nouvelle Megillah de Koren en Israël. On aura aussi Steve Suissa cette semaine.
Ah oui. Il vient à Strasbourg.
Non, il vient à Strasbourg. Il sera avec nous en ligne. Jeudi.
Vous viendrez déguisé, j'espère.
Ouais, on verra. Jeudi, 11h30, avec Laura Veldiachev, on parlera de Pourim. Et vendredi prochain, évidemment, dans cette émission, on parlera également de la fête de Pourim, pratiquement toute l'émission.
En quoi vous allez vous déguiser cette année, Jean?
J'ai envie d'essayer le grand rabbin. Ah, ouais. Mais c'est compliqué.
Je vais vous prêter quelques accessoires, si vous voulez.
Voilà, merci beaucoup à vous. Shabbat shalom, merci à vous. Shabbat shalom.
Shabbos Kodesh, Shabbos Kodesh, Yidelech prepare for Shabbos Kodesh, joy is in the air for Shabbos Kodesh.